le grand jury de la presse immobilière. Une émission en partenariat avec Bien Ici sur Radio Immo.
Bonjour, bienvenue sur Radio Immo. On est ravis de vous recevoir pour ce nouveau numéro, ce numéro de printemps du grand jury de la presse immobilière. Votre rendez-vous où le logement, la politique immobilière, les territoires, la ville et la transition écologique sont débattus, sont analysés. Et oui, parfois on n'est pas d'accord, mais ça fait du bien. Chacun donne son avis. Notre grand témoin aujourd'hui, c'est Karine Julia El-Kaïm. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous allez passer sur le grill de nos journalistes. Vous êtes la présidente du comité exécutif du groupe Polylogie, un acteur majeur du logement social en France. Le groupe Polylogie, je le rappelle, réunit tous les savoir-faire pour penser, aménager, renouveler la ville et ses quartiers. Et donc, ensemble, on va s'intéresser au logement social entre crise de production, recomposition du secteur et nouveaux modèles. Quel rôle pour les grands opérateurs comme Polylogie? Et je rappelle que cette émission est en production, coproduction avec Bien Ici. Et justement, la météo de l'IMO, le baromètre indispensable des signaux du marché, va nous être présenté par Régis Séville. Bonjour Régis, comment ça va?
Bonjour Bernie, ça va très bien.
Vous êtes en forme comme d'habitude?
Tout en forme.
Bon, vous êtes responsable des analyses chez Bien Ici, vous allez justement nous livrer les tendances en temps réel, et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est vraiment en temps réel avec vous, donc recherche, tension, dynamique territoriale, tout ce que dit la data de l'immobilier. Vous savez que moi je suis une passionnée de data, donc on attend ça avec impatience. Et puis évidemment autour de la table, nos journalistes qui suivent au quotidien la fabrique du logement, les politiques publiques, la copropriété, les enjeux environnementaux, les mutations sociales et évidemment le logement social. On va commencer par Honorda. Isabelle Ray-Lefebvre, bonjour.
Bonjour Bérénice.
Merci d'être avec nous. Journaliste spécialiste en immobilier. Vous avez été pendant de nombreuses années au Monde, notamment. Sébastien Chabas, bonjour.
Bonjour Bérénice.
Vous êtes journaliste et reporter économique, fin connaisseur de l'immobilier, du logement aussi. Et Sylvain Lévy-Valency, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, directeur associé de Radio Immo, et notre quatrième journaliste arrive maintenant en plateau. Tadam, il s'agit de Jean-Marie Bordry, qui est responsable.
Bonjour à tous.
Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est ce qu'on appelle être pile poil à l'heure.
Merci.
Timing parfait, vraiment.
Ouais,
c'était fait exprès.
Ça dépend de quelle heure on parle.
Il a soigné son entrée comme au théâtre.
Exactement. Journaliste et donc responsable d'antenne de Sud Radio. Eh bien, je pense qu'on va commencer tout de suite dans le vif du sujet avec la météo de l'IMO. C'est Régis qui donne le tempo.
La météo de l'IMO, par Bien Ici.
Et oui, on commence, on rentre dans le vif du sujet avec les chiffres sur les transactions, l'ancien et le neuf, Régis.
Exactement, sur le premier trimestre, en fait, on a une contre-tendance entre l'envie et l'action. Typiquement, on va voir l'envie avec une hausse de trafic, plus 10 à 15% sur ce premier trimestre 2026 par rapport au premier trimestre 2025, c'est-à-dire plus de consultations d'annonces. Mais il y a aussi cette contre-tendance vis-à-vis de l'action avec une baisse de l'attention, c'est-à-dire plus d'offres d'un côté et un petit peu moins de demandes par rapport à l'année dernière. Les indicateurs du marché, eux, ils sont plutôt bons. On va avoir des prix stables et surtout une durée de diffusion qui est aux alentours de 73 jours actuellement, c'est-à-dire moins 10 jours par rapport au premier trimestre de 2025. En fait, ce qui s'est passé sur ce premier trimestre 2026, c'est qu'on a eu un mois de mars qui est vraiment déterminant dans les résultats. Un mois de mars 2025, l'année dernière, c'était un mois de reprise. Cette année, c'est un mois qui est avec un contexte géopolitique angoissant. C'est du déjà vu, en fait. On l'a déjà vécu en 2022 avec la guerre en Ukraine. Et c'est un coup de frein un petit peu sur l'envie et le passage à l'acte dans l'immobilier. Globalement, ce qu'on va avoir, c'est des acquéreurs qui sont dans une situation complètement différente à celle de 2022, avec un apport qui est plus conséquent qu'il y a 4 ans. En fait, les gens se sont préparés déjà il y a 4 ans à avoir un apport un peu plus conséquent, et on n'est pas dans la même situation où c'était tombé quasiment d'un coup il y a 4 ans.
Et puis c'était après le Covid aussi.
Exactement, où tout était monté, il y a eu une forte embellie, et c'était retombé vraiment d'un coup. Là, on est vraiment sur une période de pré-reprise sur 2024, puis 2025, ça allait mieux. Et le petit coup qu'on a aujourd'hui, c'est un coup de frein. C'est pas un coup qui remet tout en cause, avec un apport qui est là et l'envie qui est bien sûr toujours là.
Donc un ralentissement, si je puis dire. Est-ce qu'il faut s'attendre à un coup de massue sur la construction neuve ? C'est ça le danger, peut-être ?
Alors, sur le neuf, les résultats sont encourageants au premier trimestre. On va avoir plus 2% de programmes diffusés, donc ça, c'est très bien. On a de l'offre qui est là. Et plus 4% de la demande sur le neuf sur le premier trimestre 2026. C'est-à-dire qu'on va avoir une progression de la demande qui est deux fois plus importante que celle de l'offre.
Et là, par rapport à 2025.
Par rapport à 2025. Et là, on se dit, c'est très bien. On va avoir une relance du neuf qui est poussée par le gouvernement et dont on a vu le ministre le mois dernier, et qui doit faire face, quant à elle, à deux problématiques actuellement. D'un côté, on va avoir la possibilité de recruter de la main-d'œuvre pour construire davantage, hein, parce que c'est l'idée, faire plus de constructions neuves, mais pour cela, il faut de la main-d'œuvre dont on a dû se séparer il y a quelques années. Et de l'autre côté, il y a l'impact inflationniste avec la hausse des prix sur les matières premières, et notamment une répercussion sur un prix de vente qui est déjà, lui, plus élevé que dans l'ancien.
Donc là, on a déjà enregistré une hausse des matières premières, du prix des matières premières.
Ça risque d'arriver assez rapidement, en tout cas.
Avec l'inflation, avec la crise énergétique qu'on connaît actuellement. Du côté du locatif, vous avez donc de bonnes nouvelles pour ce premier trimestre 2026. C'était tendu, hein.
Alors, on va prendre les bonnes nouvelles. On a une situation qui est inverse par rapport à celle du marché de la vente dans l'ancien. C'est-à-dire qu'on va avoir plus d'offres et moins de demandes sur ce premier trimestre 2026 par rapport au premier trimestre 2025. On va avoir un stock d'annonces qui ne baisse plus, ça c'est la vraie bonne nouvelle, mais qui reste toujours deux fois et demi moindre par rapport à son niveau d'il y a quatre ans. Donc on est toujours sur un palier bas, ça remonte légèrement, c'est pas suffisant, mais on a arrêté de baisser. Et on a un retour de l'offre sur le marché, mais qui malheureusement n'est pas toujours adapté. On a deux tendances particulières sur ce retour de l'offre. On va avoir d'un côté les primo-accédants de 2025 et début 2026 qui, en devenant propriétaires, libèrent du logement sur le locatif. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et on a une hausse des volumes aussi de biens qui sont meublés sur le locatif. Alors, on va avoir deux effets. L'effet restriction locale sur les saisonniers, qui a fait un retour du meublé dans l'offre traditionnelle. Et on a aussi le côté d'avoir un plafond de loyer plus élevé sur le meublé, c'est-à-dire que ça donne forcément une meilleure rentabilité pour le bailleur en se disant si je peux louer plus cher en meublant, autant en meublé. Derrière cette hausse de l'offre de meublé, en fait, on va accentuer les inégalités sur le marché. Typiquement, si on prend l'exemple de Paris, un T2 vide se loue en loyer médian à 1 500 € contre un T2 meublé à 1 800 €. Ça veut dire que c'est un écart de 300 €. Et quand on demande de gagner trois fois le montant du loyer pour y accéder, ça veut dire qu'il faut gagner tout simplement 900 € de plus pour prétendre un T2 meublé par rapport à un vide. Voilà, les inégalités sont clairement là.
Mmh. Et donc on voit quand même les effets de la loi sur les locations saisonnières.
Ah oui, c'est très net, on voit
qu'il y a un retour en fait, donc ça, cette loi, on peut le dire, fonctionne, on en discutera, mais ça fonctionne, d'après les chiffres, ça fonctionne.
Alors ça fonctionne sur l'offre, mais l'offre, elle n'est pas forcément adaptée parce qu'elle permet d'avoir un niveau de loyer qui est encore supérieur au niveau de la demande.
Un petit mot peut-être pour conclure sur les tendances, on va dire, actuelles et à venir.
Alors globalement, l'effet de reprise de 2025 qui s'est vu sur ce début d'année, en tout cas jusqu'à fin février, mars met un petit coup de frein sur ce marché, mais l'envie est toujours là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut agir dès ce printemps, parce que le gros du marché se passera entre le printemps et l'été, et on peut prévoir d'ici fin juin, début juillet, une hausse des taux qui, elle, sera forcément un gros coup de frein sur l'achat, parce que ça va baisser le budget d'acquisition des acquéreurs.
Oui, les taux qui ont déjà commencé à augmenter.
Qui commencent déjà, oui.
Ça a commencé en ce mois d'avril. Merci beaucoup, Régis, pour cette fine analyse de ce premier trimestre 2026 avec Bien Ici, je le rappelle. Karine Julien-Elkaïm, alors, une petite réaction peut-être à tout ce qui s'est dit. Si on reprend le sujet de la location des meublés sur Paris, par exemple, les revenus demandés, on l'a vu, sont hors de portée, avec trois fois le montant du salaire. Est-ce que ça veut dire que de plus en plus de personnes vont devoir se tourner vers le logement social ?
Alors on le voit depuis quelques mois déjà, l'augmentation des demandes au niveau du logement social. On doit être vers à peu près 2,9 millions sur tout le territoire de demandeurs. Et en Ile-de-France, on est à un peu plus de 900 000, je crois que c'est 920 000 demandeurs. Donc on voit qu'on a quand même une demande qui est extrêmement importante. Et si je prends le cas de l'Île-de-France, puisqu'on parlait des meublés à Paris, 920 000 demandeurs, et en face, on doit avoir 65 000 attributions par an. Ouais. Donc on voit qu'on a quand même un rapport entre le nombre d'attributions et le nombre de demandeurs qui est vraiment très faible et de plus en plus faible, parce qu'effectivement, par rapport à ce qu'on disait sur le locatif, la conséquence, c'est qu'on a une rotation sur le parc du logement social qui a baissé, puisqu'il y a quelques années, on était à 10, et maintenant, en Ile-de-France, on est à 5%, ce qui est rien du tout.
Donc 5% de gens qui quittent leur logement social.
De rotation, exactement, par an. Donc ah oui. Ça veut dire qu'on a une baisse quasiment d'autant de 5 points, et ça a ramené au fait qu'on, pendant une période, on a quand même moins construit, et notamment lié à la période du Covid, bah, ça veut dire qu'on a de plus en plus de demandeurs, puisque mécaniquement, on a de moins en moins d'attributions.
Et alors, ces 5% qui quittent leur logement social, c'est pourquoi ? C'est pour acheter en général ou...
oh, bah après, il y a un peu de tout. Il y a ceux qui mutent dans le parc social. Ça, il y a à peu près, on va dire, dans les demandeurs actuels, il y a à peu près un tiers de demandeurs qui sont déjà locataires du parc social. Donc, il y a à peu près un tiers.
Donc, ils prennent un autre logement social,
parce
c'est
que,
ça
bah, soit ils ont des enfants, soit justement, c'est plutôt des seniors qui cherchent des produits plus adaptés, etc. Donc, ou alors des gens qui déménagent. Enfin, il y a plein de raisons. Et effectivement, il y en a une partie aussi qui devient accédant à la propriété. Donc, ça peut être dans le parc social, ça peut être de l'accession sociale et ça peut être de l'accession plus classique. Mmh. Voilà.
Et combien de temps il faut pour obtenir un logement social en Ile-de-France ? Les délais sont énormes, c'est 10 ans, non ?
Comme 65 000 attributions, 920 000 demandeurs, oui, ça peut être en fonction des endroits. Paris, on doit être à plus de 10 ans. Donc, effectivement, ça dépend vraiment de la localisation. Dans la première couronne, c'est quand même très compliqué. Dans le 92, en première couronne, c'est plus élevé que quand vous êtes dans le 93, ça dépend un peu des localisations.
Et en revanche, en dehors de Paris, ça dépend vraiment de la localisation. Oui. Là où c'est moins tendu, j'imagine.
Il y a des endroits. Quand on passe en deuxième couronne, ça devient forcément moins tendu qu'en première. Si on parle des Hauts-de-Seine, par exemple, c'est pas forcément là où il y a le plus de parcs sociaux et il y a quand même beaucoup d'habitants, donc mécaniquement, et beaucoup d'entreprises, etc. Donc beaucoup de demandeurs, des salariés, etc. Donc là, c'est des durées qui peuvent être très 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 longues.
Merci Karine Julien-Caïm. On passe tout de suite à la revue de presse de nos journalistes.
Le grand jury de la presse immobilière, la revue du grand jury.
Et on commence avec un sujet d'actualité. On va parler du grand plan d'électrification qui a été annoncé par le Premier ministre Sébastien Lecornu. Isabelle Larelle-Lefebvre, c'est votre coup de...
Projecteur.
C'est, voilà, j'aime beaucoup le terme. Voilà, c'est prudent.
Ça, on s'attendait un peu à cette fin du gaz. Et non. Donc maintenant, les chaudières neuves, dans les appartements neufs, seront interdites à partir du 1er janvier 2027, ce qui était le cas, mais y compris les chaudières dites hybrides.
C'était pas le cas pour les hybrides, hein, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Mais surtout. Ce que le ministre du Logement a annoncé, c'est des territoires zéro gaz. Une centaine de territoires zéro gaz. En fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans certains territoires, on va couper le gaz. Aujourd'hui, déjà, la consommation du gaz baisse. Il y a moins 16% depuis 2022. Et surtout, le nombre d'abonnés baisse. J'étais l'autre jour au congrès de la CLCV. Il y a un adhérent du Jura qui a dit « Les trois papeteries de ma commune ou ma intercommunale, elles se sont déconnectées du chauffage au gaz pour créer leur propre chaudière biomasse avec du bois. Les réseaux de chaleur aussi progressent. Donc, on va avoir de moins en moins d'abonnés au gaz. Et donc, les frais d'entretien du réseau vont coûter plus cher individuellement. Ils ont déjà augmenté de 20%. On pense qu'ils vont encore augmenter de 20%. Et donc, les derniers abonnés au gaz vont payer très cher leur abonnement, qui déjà représente 30, parfois 50% de la facture.
Ouais.
Et petit à petit, au fur et à mesure des désabonnements, des déconnexions, eh bien, on va fermer la filière gaz. Donc, j'alerte sur le fait qu'il faut se préparer à la fin du gaz, mettre des pompes à chaleur éventuellement, de l'électricité, mais les derniers abonnés au gaz vont payer très cher. Et donc, alors on fait pression sur les logements sociaux pour qu'ils se raccordent au réseau de chaleur quand ils existent, etc. Mais donc, j'alerte sur le fait que le coût d'abonnement...
Y compris le gaz vert aussi.
Alors, le gaz vert, il est très marginal et il ne remplacera pas le gaz pas vert.
Oui, mais l'avantage, c'est qu'on peut se servir des mêmes infrastructures.
Mais si vous voulez...
Ça a été un grand débat de récupérer, en fait, les infrastructures qui existaient pour faire circuler du gaz vert plutôt que du gaz fossile.
Ce n'est pas ce qui est choisi comme politique.
La
politique, c'est une fin du gaz en douceur. d'ici 2030-2040. Mais la montée en puissance du biogaz ne remplacera pas le gaz que nous importons aujourd'hui plutôt des États-Unis ou de Norvège. Et moins du gaz russe. En fait, c'est pas tellement pour des problèmes climatiques, mais c'est aussi pour des problèmes d'autonomie, de souveraineté énergétique.
On voit ça avec dès qu'il y a un problème géopolitique quelque part dans le monde, on a des conséquences directes sur le prix du gaz. Voilà, avec ce qui se passe avec le détroit d'Ormuz qui est fermé, enfin qui devrait rouvrir.
Donc le prix des abonnements gaz va fortement augmenter.
Et donc là, c'est vrai que ce point de vigilance là pour les derniers abonnés qui vont se partager les frais en étant moins nombreux, ça le Premier ministre ne l'a pas mentionné, j'imagine. Il n'y a pas eu de
non, mais en parlant de territoire zéro gaz, c'est ce qu'il veut dire.
Oui. D'accord.
Ça veut dire que petit à petit, il va y avoir des régions, des territoires qui ne seront plus approvisionnés au gaz.
Et le but à terme, c'est quoi ? C'est de supprimer les infrastructures
Oui, c'est de supprimer toute alimentation au gaz.
Karine, Julien Lecaïm, c'est vrai que le Premier ministre a parlé du logement social aussi, parce que cette électrification, elle va se faire aussi, elle est en train de se faire déjà dans le logement social. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ?
Aujourd'hui, il y a à peu près 55% en fait du logement qui est du logement qui est chauffé, enfin alimenté par le gaz, qui est lié aussi au fait qu'on nous a beaucoup incité dernièrement à justement transformer ce qui à l'époque était du fioul en gaz. Donc maintenant, il y a tout un travail à faire sur la transformation. On parle de 5,2 millions de logements sociaux. Donc 5%, 55%, ça fait quand même un volume de logements qui est important. Donc là, dans les mois à venir, va falloir qu'on réfléchisse justement et qu'on planifie cette transformation. Donc on parle beaucoup des pompes à chaleur, mais les pompes à chaleur dans le neuf, là effectivement c'est plus simple ensuite à gérer et maintenir, mais quand on est dans l'ancien c'est beaucoup plus compliqué, et puis il y a des endroits où sur le plan architectural on peut pas forcément mettre des unités à l'extérieur, donc ce qui veut dire qui sont très moches, mais même sur le plan purement pratique c'est pas toujours facile. Donc l'idée c'est aussi de réfléchir à d'autres typologies. Bon, on a effectivement tout ce qui est le réseau chaleur urbain, et puis il y a aussi tout ce qui est vraiment électrique, puisque ça peut faire partie des choses intéressantes quand on a des immeubles qui ont été rénovés, donc on n'a pas de sujet d'isolation. Bah, le fait de pouvoir transformer et de faire justement de l'individuel électrique, c'est un vrai intérêt pour les locataires. Surtout, c'est moins cher en coût de transformation, c'est plus rapide à mettre en place, et en plus, c'est un vrai gain. On parlait de la CLCV, c'est un vrai gain sur la quittance du locataire tout de suite. Donc après, c'est vrai que ça va être une vraie cartographie en fait du patrimoine en fonction des immeubles qu'on a. Il y a à peu près, on va dire, 60% du patrimoine de logement social qui a été construit avant 1974. Donc ça veut dire qu'en termes de typologie de construction, etc., on ne peut pas dire qu'il y a une solution et hop, tout le monde va sur la PAC ou etc. Il faut vraiment le travailler.
C'est au cas par cas, quoi.
Voilà, en vraie cartographie du patrimoine. Et derrière ça, il y a une vraie réflexion aussi sur la partie comment on finance tout ça. Donc ça vaut pour le logement social, mais pas que, aussi sur tous les copropriétaires, puisque financer ce type de travaux, c'est des travaux qui peuvent être très lourds. Et donc ça va faire partie aussi du schéma, pour ça que je parlais de l'électrique, parce que la transformation, c'est quand même moins cher. Comment on accompagne ces financements de travaux, il y en a beaucoup. Il y a les C2E, etc. Là, je reviens sur le bailleur sociaux. On a les éco-PLS, mais il y a une vraie réflexion par rapport à ce financement de travaux.
Oui, parce qu'on pense aux copropriétés mixtes aussi. Vous en avez ça dans votre parc ?
Oui, on a des copropriétés.
Donc ça veut dire mixte, il y a des logements sociaux, mais il y a aussi des propriétaires.
Oui.
C'est mixte en fait. Et donc là, le coût n'est pas le même en fait pour les locataires. Les locataires ne payent pas les travaux.
La réflexion quand on est effectivement en copropriété mixte ou en logement social en pleine propriété, on n'a pas forcément la même réflexion, parce que là où un bailleur est peut-être capable de mettre 30 000 euros par logement, ce n'est pas forcément le cas du copropriétaire. Ouais. Donc il y a des vrais travaux à faire et des vraies réflexions sur comment on finance tous ces travaux.
Sébastien, vous voulez...
Moi, j'avais juste une petite question. En Île-de-France, combien ça coûte en moyenne une fourchette de travaux Je vous donne un exemple. Là, récemment, là, pour le point, sur un dossier à Marseille, un dirigeant de Square Habitat me donnait en moyenne, hein, vraiment la fourchette moyenne, pour pouvoir rénover un bien, entre 20 et 30 000 euros de travaux, comprenant des travaux de... Voilà, de petits travaux, hein, menuiserie, peinture... combien... Pour faire à l'échelle de parisienne, alors c'est peut-être difficile
c'est
de comparer.
C'est difficile, je vais vous dire,
on va dire de 10 000 à 80 000. C'est-à-dire qu'en fait, tout dépend...
C'est une fourchette, c'est un râteau.
Ça dépend ce qu'on fait. Quand on est sur purement énergétique, on est plutôt entre 20 et 30. Quand on est sur des rénovations plus importantes, ouais. Où là, on va travailler sur les parties communes, les parties privatives, etc., là, on est plutôt entre 70 et 80. Mais sur tout ce qui est plutôt énergétique, on est entre 20 et 30 000. Donc, on ramène ça à nos 55% sur nos 5,2 millions, vous voyez un peu le montant. Et c'est pour ça que nous, on a commencé à travailler justement sur notre patrimoine en regardant au niveau cartographique comment est-ce qu'on peut faire du composant pour travailler, en fait, cette notion d'étiquette des vecteurs. Parce que quand on travaille que sur un composant, ça veut dire, par exemple, passer du gaz à l'électrique ou à la PAC, ou tout dépend le logement, ça coûte quand même beaucoup moins cher que les grosses rénovations qu'on avait l'habitude de faire. Parce que globalement, aujourd'hui, compte tenu des volumes, on va être obligé de faire, quand je dis on, c'est les bailleurs sociaux, mais pas que les bailleurs sociaux, tout le monde va tous obligé de faire des arbitrages pour faire le maximum et le plus vite possible.
Alors, on reste dans le thème de la copropriété, on passe au coup de cœur de Sylvain Lévy-Valency sur notamment un décret publié en janvier sur les copropriétés dégradées.
Absolument, un décret du 9 janvier 2026 qui encadre, tu en as entendu parler, je crois, Isabelle également,
oui,
sur un renforcement du dispositif. Mais qui est très, voilà, très affûté, qui permet de renforcer en fait la capacité qu'auraient les copropriétés qui sont un peu laissées pour compte, notamment les copropriétés en péril, celles qui sont dans l'irrecouvrabilité des charges, malheureusement, alors qui pénalisent ceux qui pourraient le faire à l'inverse des autres également. Ça touche beaucoup les grands ensembles. On a beaucoup de grands ensembles qui sont en véritablement en péril, sur lesquels il n'y avait pas vraiment de solution. Donc là, du coup, le dispositif vise à renforcer la capacité des syndics, notamment sur le plan du modèle économique, puisque moi, je connais pas un syndic capable à perte de pouvoir gérer un immeuble en difficulté, mais également la possibilité de renforcer le cadre et la dynamique des travaux, puisque une copropriété dégradée en péril, c'est une copropriété dans laquelle on a...
Ça veut dire quoi, en péril ?
Ça veut dire que, en fait, le défaut d'entretien peut entraîner non seulement de graves dommages sur l'immeuble, mais ça peut même entraîner des avis de péril qui obligeraient donc les collectivités locales à carrément déménager. Ça a été le cas à Marseille.
Marseille, on en a parlé. Rue d'Aubagne.
Bah là, il y a Honfleur aussi.
La rue d'Aubagne, au 55.
Alors là, Honfleur, c'est
un risque d'inondation. C'est autre chose.
Un problème de remontée capillaire extrêmement grave par les nappes sous l'immeuble, avec un défaut majeur d'entretien. Notamment, par exemple, sur les caves. Alors, tu prends le cas de Honfleur. Quand on est sur des caves qui sont inondées, il faut faire ce qu'on appelle un cuvelage. Hein. Vous connaissez ça, un cuvelage ? C'est-à-dire qu'en fait, on fait sortir l'humidité de manière différente. C'est-à-dire qu'en fait, on enserre la cave dans un enchevêtrement qui permet de ne pas avoir le contact avec l'humidité. Mais le seul problème, c'est que il faut trouver un moyen pour faire sortir l'eau. Donc, trouver une canalisation qui permet de sortir l'eau. Ça n'a pas été fait. Alors que les appels de la collectivité avaient été faits à de multiples reprises, résultat, dégradation de la structure du bâti sur l'empreinte, qui est très, très, très contrainte, hein, pour voir où ça se situe, c'est sur le petit morceau de port magnifique, etc. Résultat, c'est un effondrement. Et le problème, c'est que on calculait le montant des sommes qu'il faudrait allouer à la réforme des copropriétés qui sont dégradées, mais on est sur des sommes astronomiques. On a des copropriétés dans lesquelles le coût peut varier de 55 millions d'euros jusqu'à 85 millions d'euros. Et donc, on est face à des propriétaires pauvres qui se sont endettés et dont la valeur de leur bien, la valeur de l'actif est quasiment réduite à
néant.
On est d'accord, c'est un chantier énorme. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des immeubles qui étaient avant des immeubles sociaux qui ont été mis en accession sociale à la propriété, dans lequel aujourd'hui ils sont devenus. Et malheureusement, c'est les propriétaires qui ont repris la main en indivision avec la copropriété, ben, l'ont pas forcément soit bien, soit mal géré. Il y a un vrai sujet là-dessus. Moi, je pense que ça va nous tomber dessus d'une manière ou d'une autre avec les phénomènes de plus en plus graves.
Oui, et puis,
de
toute façon, vous arrivez 50 ans après la fin des 30 Glorieuses. C'est pendant cette période qu'on a construit beaucoup de logements, souvent de piètre qualité, qui ont besoin d'un entretien très très lourd. Et on n'est pas sûr que tous puissent garder de la valeur dans 20 ans, même avec un gros entretien. Donc, ça se retrouve aussi dans les zones touristiques, par exemple, que ce soit sur les bords de mer ou alors que ce soit à la montagne. Et un certain nombre de ces copropriétés, à un moment ou à un autre, auront des travaux tellement lourds que la question se posera tout simplement de savoir si ça vaut pas le coup de tout raser pour reconstruire à la place.
Mais j'avais la question pour le logement social.
Sur les ventes, les copropriétés dégradées issues de la vente sociale, de logement social, c'est plus que marginal. À ma connaissance, il y en a une ou deux dans le sud de la France.
Pourquoi ? Parce que vous les préparez bien, vous faites de la pédagogie.
Nous, on fait de la vente HLM depuis plus de 25 ans, puisque c'est un des moyens. Le groupe Polylogie, c'est un groupe qui est complètement indépendant, donc ce qui veut dire que j'ai pas d'augmentation de capital par l'actionnaire majoritaire. Donc pour pouvoir continuer à développer, ça a des avantages, mais aussi des inconvénients. Et donc pour pouvoir continuer à développer, à transformer, réhabiliter, etc., il faut trouver des financements seuls. Et donc depuis 25 ans, on vend une partie du patrimoine. C'est à peu près 200 logements par an. On a à peu près 93 000 logements sociaux. Donc, ce n'est pas non plus un nombre extrêmement important, mais ça nous permet de continuer à construire deux, voire trois fois plus que ce qu'on vend. Donc, ce qui veut dire que depuis 25 ans, on a beaucoup de copropriétés qui ont été créées. Quand on vend du logement comme ça à l'accession, il y a plusieurs choses. D'abord, ça met à peu près 25 ans. C'est-à-dire que pendant 25 ans, le bailleur est toujours présent dans la copropriété, puisqu'on marche avec le taux de rotation, puisque quand on met un immeuble en vente, les locataires qui ne veulent pas acheter, ils restent là autant qu'ils veulent. Donc, ce qui veut dire que la vente, elle se fait au fur et à mesure de la rotation. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, ça veut dire qu'on est quand même présent longtemps. Et ensuite, quand on décide de mettre en vente, d'abord, on fait beaucoup de travaux pour faire en sorte d'avoir des travaux qui seront faits pour les 15 ans qui viennent, on va dire. Et on accompagne les accédants à la propriété. Et les accédants à la propriété, ils ont généralement été locataires. Donc, il y a plein de charges qu'ils vont avoir à payer, qui ne connaissent pas forcément l'existence. Et on les accompagne beaucoup sur cette notion de budget, sur « je suis maintenant propriétaire », qu'est-ce que ça veut dire en termes d'obligations et de devoirs, et etc. Donc, le fait de les accompagner sur le plan financier, mais aussi sur le plan juridique, leur apprendre ce que c'est être copropriétaire, et comme on est à côté, quand je dis à côté, c'est qu'on reste dans la copropriété, ça permet d'éviter ce genre de
Est-ce que vous êtes toujours majoritaire dans les copropriétés ou pas ?
Alors, on est majoritaire, on va dire, dans les 5, 6, 10 premières années, en fonction de l'écoulement. Et puis au fur et à mesure du temps, on passe minoritaire. Et donc justement, cette longue période, on va dire, ça permet d'accompagner la copropriété et à accompagner les copropriétaires à être présents dans les conseils syndicaux. Parce qu'on dit, les syndics, souvent, ils font pas leur job, etc. Mais un syndic, il est là aussi pour être contrôlé. Et le contrôle, il se fait par le conseil syndical. Et si on n'a pas appris aux gens à être dans un conseil syndical, à quoi ça sert, et à les accompagner sur tous ces sujets-là, forcément, il y a beaucoup de choses où ils ne feront pas leur job de contrôle, entre guillemets. Et c'est ces copropriétés qui ensuite, là je ne parle pas avant accédant, mais d'une manière générale, c'est des copropriétés qui ont du mal à vivre. Sur le plan copropriété dégradée, on accompagne beaucoup les copropriétés dégradées donc dans le groupe sur plusieurs angles. D'abord parce qu'on a un administrateur de biens qui justement travaille beaucoup dans les copropriétés dégradées. Et ensuite, dans les structures du groupe, on a ce qu'on appelle les SACICAP. Donc les SACICAP qui font partie du réseau Procivis et qui en fait préfinance toutes les aides de l'ANA. Donc ce qui fait que nous, on a beaucoup de dossiers, par exemple à Clichy-Toubois, on a travaillé comme ça, où on a eu des travaux qui ont été donc préfinancés par les SACICAP Group et puis donc pilotés par Emo de France, par Île-de-France. Et ça permet justement d'accompagner les copropriétés dégradées.
Vous faites l'avance des aides
on fait le préfinancement des aides pendant 2-3 ans en fonction des travaux. Mais c'est vrai que quand on a je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait d'avoir des structures et des copropriétés qui sont assez anciennes. Et quand on n'a pas entretenu régulièrement son immeuble, en se disant bah, le ravalement ça attendra, la toiture ça fuit un peu, ça attendra, ben, y a un moment où il y a tout qui tombe. Et c'est là où on passe sur le côté copropriété dégradée, en plus de la problématique de certains copropriétaires qui peuvent avoir des problèmes pour payer les charges. Ça, c'est encore un autre sujet et qui est souvent le cas
souvent
des copropriétés.
Souvent, le non-paiement des charges entraîne, tout à fait. En fait, un manque de travaux. Le manque de travaux fait notamment, je prends l'ascenseur, où c'est un vrai sujet sur les ascenseurs. Il y a des ascenseurs qui restent comme ça en panne pendant 8, 9 mois, voire un an.
Les copropriétés où un petit enfant de 10 ans n'avait jamais vu
l'ascenseur fonctionner. Avec des personnes qui sont assignées à résidence. Ouais. On a interviewé une personne qui est restée chez elle pendant un an et demi, sans jamais descendre. Il y avait une solidarité à l'intérieur de l'immeuble pour lui porter ses courses, mais c'est un vrai...
Sujet. Le problème des copropriétés en difficulté, il ne sera résolu que quand on obligera les copropriétés à provisionner l'entretien de l'immeuble. Et donc, y compris par les entrants. Parce qu'aujourd'hui, les gens achètent très cher leur appartement et après, ils n'ont plus d'argent pour faire face au ravalement, etc. Et puis, il n'y a pas de raison que ce soit le copropriétaire qui est là, présent le jour du ravalement, qui paye tout, le ravalement ou la rénovation. Donc, il faut lisser dans le temps. Donc, il faut provisionner.
Sachant qu'il y a aussi un autre sujet qui va finir par monter, c'est la qualité disparate des constructions de la période des 30 Glorieuses en période de forte croissance, où tous les bâtiments ne sont pas de la même qualité, toutes les fondations ne sont pas nécessairement aussi solides, tout le choix des matériaux n'a pas forcément été le meilleur, et on peut avoir des mauvaises surprises, y compris dans les copropriétaires.
Je pense que les immeubles des années 70 sont de meilleure qualité que ce qu'on fait aujourd'hui.
C'est dire.
Donc, mais il faut que ce soit entretenu. Et pour que ce soit entretenu, il faut qu'il y ait des provisions, mais pas 5% du budget prévisionnel.
Parce que ça existe, hein, il y a un fonds travaux. Non, mais il y a le fonds travaux qui existe.
5% des dépenses. Il faut que ce soit 5% du budget
travaux. Moi, j'aimerais bien avoir la démonstration de comment on pourrait provisionner de manière significative les travaux sans impacter effectivement le prix de vente, parce que moi, je ne vois pas comment.
Eh bien, il faut impacter le prix de vente.
Et comment? En l'encadrant?
Ben non. C'est-à-dire que l'entrant lui dit, ben, il va falloir mettre 15 000 euros au pot pour entretenir l'immeuble. Eh bien, vous négociez avec...
Et ça viendra en déduction du prix de vente.
Ben oui.
Super.
Mais c'est la logique économique.
C'est logique.
C'est la logique économique.
Oui, non, mais comment tu le mets en place quand... Ben, mais voilà,
si vous me vendez une voiture avec seulement 3 pneus, effectivement, il est possible que je vous déduise de la valeur de la voiture, la valeur du quatrième pneu.
Non, mais s'il faut provisionner les travaux, lorsqu'on achète un appartement, on accède au règlement de copropriété. Et notamment, sur le règlement de copropriété, on accède au procès-verbal. Au procès-verbaux qui voit s'il y a des travaux qui sont pris. Par exemple, les ravalements, etc. Si je vois que j'achète un appartement à 10 000 euros du mètre carré et que je vois qu'ils ont voté 500 000 euros de travaux et que je vais en prendre pour 50 000 euros, normalement, je le sais. Donc, c'est aussi peut-être un axe de négociation. Mais
Est-ce que je vois, par exemple...
Ce n'est pas forcément écrit.
En général, d'ailleurs, c'est pas les 500 000 euros de travaux qui sont facilement prévus. C'est justement les 500 000 euros de travaux qui font peur à toute la copro, ce qui fait qu'elle se met jamais d'accord pour voter quoi que ce soit, et qu'à la fin, c'est écrit nulle part et que ça vous tombe dessus quand même.
Tout à fait.
À l'arrache et beaucoup trop cher.
Et c'est des critères à regarder quand on veut acheter un bien immobilier.
L'importance des plans pluriannuels de travaux.
Oui, c'est très important de provisionner. Et quand vous avez l'argent, vous entretenez.
Tout à fait.
On va passer au coup de cœur, coup de gueule ou coup de projecteur de Jean-Marie Bordry. Ouais. C'est la cathédrale d'Agen.
Danger. C'est ma faute en même temps. On va parler patrimoine.
Magnifique.
Alors, la cathédrale est superbe. Elle est superbe. Mais mon coup de cœur, il est pour le ministère de la Culture et l'État. Parce que c'est très rare qu'on ose quelque chose qui pourrait heurter la sensibilité de tous les amoureux du patrimoine. Et pourtant, c'est ce qui a été fait. Il faut savoir que sur la cathédrale d'Angers, vous avez un porche polychrome. C'est rarissime. Ça n'existe pas. On n'en a quasiment pas conservé. Polychrome, ça veut dire que sur la statue des anges, des saints et de l'Apocalypse de Saint Jean, vous avez encore les couleurs qui datent de la période gothique. Ça n'existe quasiment jamais. Ça a été préservé par miracle jusqu'à nos jours pour une raison toute simple, c'est que pendant des siècles, il y avait justement un porche gothique jusqu'à la Révolution qui était là pour les protéger, pour éviter que la pluie ne détruise les couleurs. Ce porche, il a été détruit sous la Révolution parce qu'il était vétuste, on ne l'a jamais remplacé, on devait bricoler et on était en train de perdre les couleurs. Ce qui fait que l'État a demandé demander à un concours d'architectes de concevoir quelque chose, pourquoi pas de contemporain, pour reconstruire un Porsche. C'est un architecte, Kengo Kuma, qui a été choisi, qui est japonais, qui a été sélectionné, qui fait quelque chose de très audacieux. Si vous regardez aujourd'hui ce qui a été inauguré ce week-end, vous serez peut-être choqué. Peut-être que vous direz, qu'est-ce que vient faire cet énorme Porsche contemporain devant une façade gothique? Je peux le comprendre, c'est de l'art, c'est pas fait pour plaire. Il paraît, malgré tout, de l'aveu de tous ceux qui l'ont vu, qui sont allés voir dedans, qui sont allés voir autour et qui ont regardé, que ça s'inscrit très bien dans l'ensemble architectural, que l'impression que vous avez lorsque vous pénétrez sous le porche et que vous tombez nez à nez avec l'Apocalypse de Saint-Jean est absolument exceptionnelle avec la lumière du jour. Et qu'on le veuille ou non, il faut rappeler de toute façon que même s'il y en a qui sont très choqués de voir du contemporain débarquer sur un bout de cathédrale gothique, il n'y a pas une seule cathédrale gothique en France qui a été construite dans un style uniforme et sur une période de 20 ou 30 ans. Toutes ont pris en général un siècle ou un siècle et demi. C'est pour ça d'ailleurs que quand vous allez à Chartres, les deux tours ne se ressemblent même pas parce que c'est pas le même architecte, c'est pas le même style. Voilà. En tout cas, coup de cœur à l'audace parce qu'il en fallait.
Magnifique. Oui. C'est vrai que je suis en train de regarder les photos, on tape ça sur
c'est
Google.
Saisissant. Vous avez le droit de trouver ça moche.
Ah, je trouve ça vraiment très moche. En revanche, c'est vrai qu'il y a des photos où on est à l'intérieur dessous,
exactement.
Ça doit être spectaculaire, c'est vrai.
Et je pense qu'on s'y habitue très bien et quoi qu'il arrive, c'était ça ou un truc en bois, un cagibi ou alors un énième pastiche de trucs faux gothiques comme les Mérimoges dans notre pays.
Non, mais c'est ça a coûté combien?
C'est un geste architectural.
J'ai pas le chiffre, je saurais pas vous le dire.
C'est d'accord. Comme la pyramide du Louvre qui avait fait couler beaucoup d'encre. L'incursion du moderne dans quelque chose qui est très patrimonial. Mais rappelez-vous, on a eu le même débat sur la flèche de Viollet-le-Duc dans son remplacement à Notre-Dame. Bon, ils ont pris un pari plutôt.
Ils ont pris aucun risque. Voilà, ils ont fait un pastiche.
Ils ont fait une voilà. Ils ont
en l'occurrence, le pastiche d'un pastiche.
Moi, je trouve que la modernité, au contraire, enfin, elle doit se confronter à la tradition. Et moi, je trouve ça absolument remarquable. Et en plus, ça a un effet, ça va conserver les couleurs. Mmh. Ça va permettre de... Voilà, moi, je dis voilà, il faut saluer...
Tout le monde a le droit de trouver ça moche.
Mais à la limite, c'est plus sain, parce que c'est, finalement, ça rend le débat un peu plus vital. Quoi,
si vous allez à l'Opéra Garnier, vous avez le dôme de Chagall, par exemple. C'est pas tout à fait la même époque, et c'est aussi très...
Ou les fresques de Moretti au Capitole, sur les allées du Capitole, sur la place du Capitole à Toulouse, par exemple, qui sont quand même... qui ont fait beaucoup couler les gants. Voilà. Vous avez raison, mon cher Jean-Marie. L'art n'est pas fait pour plaire, mais fait pour être singulier, et je trouve ça...
Pour émouvoir, dans tous les sens du terme.
C'est vrai que pour faire évoluer l'esprit des architectes des bâtiments de France, c'est quand même compliqué en France.
C'est pas courant, tout à fait. Et du public, d'ailleurs, parce que chaque fois que vous changez la couleur,
en fait, on est très content de les avoir quand ça va bien.
C'est ça.
Et on les critique quand ça va pas. Parce qu'il faut quand même savoir que c'est pas une contrainte, les architectes des monuments de France. C'est la garantie de la conservation de notre patrimoine. Faut quand même, dans les limites qu'on peut comprendre, mais bien sûr.
Karine, est-ce qu'il y a de l'art dans le logement social? Est-ce que. Il y avait un bailleur social qui avait mis en place, c'était du groupe Action Logement, je crois, séquence qui faisait des œuvres d'art devant.
Il y a un collectif qui s'appelle Un Immeuble.
Devant certains des immeubles.
Oui,
c'est quelque chose qui vous. Qui,
alors, dans
qui
le.
Vous
parle. Oui, dans, chez Logirep, il y a à peu près 25 ans, quand il y avait des constructions neuves, à chaque fois, justement, il y avait des œuvres d'art qui étaient faites à l'intérieur de l'entrée des immeubles. Maintenant, ce n'est pas quelque chose qu'on fait forcément. Ce que nous, on fait plutôt, c'est tout ce qui est fresque.
Ouais.
Et notamment sur tout ce qui est les pignons, choses comme ça. Et effectivement, le fait d'amener l'art dans les immeubles, ça apporte une ouverture d'esprit qui est vraiment très intéressante. Voilà. Et après, ça peut être effectivement tout ce qui est plutôt les fresques, etc. Mais nous, ce qu'on essaye de faire, alors c'est plus temporaire, on va dire, mais je trouve que c'est aussi très important, c'est amener la culture au sein, justement, des ensembles, du piano, de la danse, du sport, enfin, tout type, différentes cultures, et c'est comme ça qu'on arrive à ouvrir les esprits et faire en sorte qu'il y ait la mixité dont on manque tant, je trouve, le fait de pouvoir faire des choses différentes, voilà, et donc, l'art, ça en fait partie.
Moi, je connais moins dans le domaine du HLM, mais la référence quand même dans la promotion résidentielle, c'est le groupe Emmerich qui a été le premier groupe quand même à lancer vraiment l'art, vraiment dès l'accueil de la résidence.
Mais il y a ce collectif, un immeuble, une œuvre, qui est présidé par Alexandra François Cuxac, je crois que c'est y a toujours, qui avec un bonus et aussi une appréciation des élus locaux qui permettent dans à chaque immeuble une œuvre.
Il doit y avoir quelques logements sociaux classés dans le pays. Hein. Vous avez encore du logement social dans les cités radieuses du Corbusier, par exemple.
Magnifique.
On a le droit de trouver ça moche, pareil. Mais
Marseille, au Firmini.
Révolutionnaire. Oui, voilà, à côté de Saint-Étienne.
À côté de Saint-Étienne, oui.
C'est ça.
On va finir les coups de cœur, coup de gueule avec votre coup de cœur, Sébastien.
Oui.
Parce qu'il y a des images. On va prendre le temps de les regarder.
Ça sera de l'image et ce sera peut-être l'occasion de parler avec vous, Karine, peut-être de me dire ce que vous pensez ensuite du bois. Puisque là, on va vraiment parler du bois. J'ai eu la chance, un clin d'œil à Bruno Monnier-Vinard du Point, de partir fin novembre. C'était à Venise pour le représenter et faire un sujet sur peu de personnes les connaissent, mais en fait, c'est les prix qui s'appellent les Holcim Foundation Awards à Venise. C'est en clôture de la Biennale de Venise. Et en fait, il y avait très peu d'architectes français. Il n'y avait que des références, alors il n'y avait pas qu'un Gokuma, mais il y avait Dorte Mandrup. Et j'ai eu la chance, à l'époque de Bâti Actu, Dorte Mandrup, c'est une architecte très connue au Danemark. Dorte Mandrup, c'est l'une des qui utilise beaucoup le bois, mais surtout qui s'est fait remarquer par des projets, des fois futuristes, comme un projet en forme de baleine. Et là, en l'occurrence, ce qui est incroyable, c'est le Kraft College à Herning. Je ne sais pas si vous voyez les images. Ça est paru dans le supplément, le premier supplément du Point, saison, une autre façon d'habiter le monde.
Donc ça, c'est un collège.
Là, c'est un collège à Herning. Donc il faut savoir que l'auteur de ce projet, la Majesté Dorte Mandrup, bien plus connue au-delà de ses frontières, pour son site d'observation en forme de baleine, comme je vous disais, au sein du cercle polaire, honoré il y a 3 ans à la Maison du Danemark.
Donc c'est en bois, c'est ça.
Et voilà. Et là, c'est vraiment un site en bois.
Il y a des panneaux solaires sur le toit, c'est ça ?
Où là, on se retrouve... on se retrouve avec une belle structure en bois. Il y a aussi, sans oublier, de l'ardoise pour une toiture.
Ah oui,
il y a 700 000 briques rustiques recyclées provenant de bâtiments démolis. Au final, on le voit, il y a une structure, l'immense toiture elliptique en ardoise, un matériau très durable utilisé depuis très longtemps au Danemark. Et comme me disait, vous avez, là pour le coup, Sylvain, c'est sûr qu'il connaît, l'agence Noeta. Mmh. Et ben moi, j'ai eu la chance de rencontrer Kjetil Trædal-Storsen, le cofondateur norvégien de l'agence, et qui reconnaissait que dans ce projet, en fait, il y avait toutes les cases des stratégies passives qui étaient remplies.
Il y a toutes les innovations
telles que la protection solaire, la ventilation naturelle et l'optimisation de la lumière naturelle.
Et alors, ça coûte combien ? Parce que c'est bien beau de dire toutes les innovations, mais à mon avis, le prix...
Non, le rapport qualité-prix, on a forcément posé la question, vous imaginez bien, lorsqu'on discute avec des architectes de grand renom, on n'a pas forcément le prix du bâtiment. On a compris que c'était quand même aussi à la charge de l'établissement, donc de la municipalité danoise. Ce que je peux vous dire, et c'est ça qui est intéressant, ça pourrait donner un exemple en France, et notamment à la CAPEB, c'est que ensuite, c'est un modèle... C'est un modèle déjà à Copenhague auprès de la Fédération de l'artisanat ou de la FFB, bien sûr. Mais pour dire que c'est un modèle maintenant de fédération au Danemark. Donc c'est pour ça que j'en profite de savoir. Vous allez pouvoir plus nous préciser. C'est est-ce que le bois aujourd'hui en 2026 est toujours d'actualité lorsque vous avez un processus de contrat, un appel de marché, est-ce que ça, pour vous ça coûte plus cher et est-ce que ça peut, et parce que souvent on dit oui c'est environnemental, mais au final ça reste toujours quand même de qualité et ça porte une garantie pour tout le monde.
En gros, est-ce que c'est réplicable? On comprend que c'est pas vraiment réplicable. parce que bon...
Là, après, réplicable comme ça, je ne sais pas, mais en tout cas, le concept du bois, déjà, effectivement, ça s'inscrit dans une démarche plus globale qu'on appelle le hors-site. On s'en est, nous, emparés depuis maintenant 2 ans. Puisqu'on a lancé un grand plan hors-site en décidant, c'est vraiment une décision stratégique, que d'ici 2030, la moitié de nos opérations seront faites en tout ou partie en hors-site.
Donc hors-site, c'est-à-dire que c'est des pans entiers d'immeubles, par exemple, qui sont construits en usine et qui sont assemblés avant d'être sur le chantier.
Ce qu'on appelait préfabriqué, ça correspond à ça, hors-site.
C'est bien qu'on ait changé d'ailleurs le terme, parce que ça nous rappelle quelques bâtiments des écoles qui n'étaient pas très...
Mais ça se dit encore, du préfabriqué. Non, ça ne se dit plus.
Bon, on le dit encore, mais c'est vrai, on utilise moins les termes, mais en fait, c'est du préfabriqué, c'est clair que ça correspond à ça. Alors, le hors-site, en fait, ça peut être très divers, c'est-à-dire qu'en fait... On peut avoir du 3D, c'est-à-dire que tout est fabriqué et ensuite c'est intégré. On peut avoir du 1D, donc du 2D, poteaux, poutres, etc. Enfin, il y a beaucoup de sujets différents. Et quand je dis tout aux parties, ça veut dire que dans un immeuble, on peut avoir une partie qui peut être intégralement en 3D, mais pas forcément, par exemple, toute la structure. Donc, l'idée, c'était de pouvoir, nous, travailler sur ces sujets-là. La première chose qu'on a faite, c'est qu'on a formé nos collaborateurs qui s'occupent de la construction neuve et de la réhabilitation, parce que le hors-site, ça n'a rien à voir avec de la construction classique. Et notamment, on en a envoyé une partie. Vous parliez du Danemark, mais nous, on les a envoyés en Hollande, parce qu'effectivement, il y a quand même beaucoup de progrès, de projets, etc., qui sont faits en 3D là-bas. Donc, en fait, on a formé nos collaborateurs et
quand vous dites en 3D, c'est-à-dire tout en bois?
Pas forcément en bois,
parce que forcément un immeuble, c'est pas forcément...
Le hors-site, c'est pas forcément du bois.
Hors-site. Ça peut être en bois, mais pas forcément en
ça
bois.
Ça peut être aussi en deux dimensions, mais comme une étagère Ikea que vous montez sur place, quoi.
Ça peut être des containers. Par exemple, quand on parle aujourd'hui d'essayer des déchets, etc., quand on prend les containers, nous, on a été un des premiers à faire une opération intégralement en containers dans le 77, et ça, c'est du 3D préfabriqué. D'accord. Voilà.
Il y a eu l'exemple aussi au Havre.
Et voilà, c'est vraiment le principe de dire il y a beaucoup de solutions qui existent. Déjà,
il y a des imprimantes béton aussi qui permettent.
Ça fait partie aussi des sujets. Après, on a tout ce qui tourne au bois. Par exemple, nous, dans ce qu'on a fait, d'abord, la première chose, c'était d'abord de former les gens. Ensuite, c'était de faire du sourcing. Parce que concrètement, aujourd'hui, on parle de bois, mais il y a plein d'autres typologies d'hors-site. Donc le deuxième, c'était de faire du sourcing. Le troisième, c'était de lancer un observatoire des coûts. Parce qu'effectivement, dans les premières opérations qu'on a pu lancer, alors je ne parle pas forcément de nous, mais à l'extérieur, on avait quand même des coûts qui étaient quand même beaucoup plus importants que le classique. Après, l'idée, c'est de dire comparons ce qui est comparable aussi. C'est pour ça qu'on a voulu, nous, lancer un observatoire sur nos constructions pour voir la différence entre, justement, tout ce qui était hors-site et classique. Et on a lancé une consultation. Déjà, on a commencé par les salles de bain. Et donc, l'idée, c'était de faire une consultation sur les salles de bain en 3D hors-site pour justement pouvoir intégrer les salles de bain qui sont intégralement faites à l'extérieur dans nouveaux
constructions. Les salles de bain arrivent comme ça.
Exactement. Voilà.
Elles s'intègrent complètement dans le bâtiment. Moi, je l'ai vu, c'est remarquable.
Et on ne voit pas la différence.
Donc, c'est quoi? Il y a les 4 murs, c'est ça? Il y a tout. Différents, la baignoire, les toilettes.
Voilà, exactement. C'est des choses qu'on faisait déjà. C'est déjà des choses qu'on faisait sur les résidences étudiantes. Mais maintenant, nous, l'idée, ça a été de l'ouvrir aussi à l'ensemble de nos...
Et du coup, c'est moins cher, ça va plus vite. Alors, c'est plus facile pour ceux qui sont...
Ça va plus vite, ça c'est sûr. L'intérêt du... Il y a plusieurs intérêts dans leur site. D'abord, effectivement, ça va plus vite. Et quand on est dans des constructions qui sont dans des environnements restreints, ça a un intérêt de construire beaucoup plus vite, et notamment pour les riverains, etc. C'est plus sécurisé. Il y a aussi des intérêts, on parle souvent de la problématique homme-femme sur les chantiers. Là, l'intérêt, c'est quand on travaille une partie en usine, on n'a plus forcément cette problématique-là. Maintenant, aujourd'hui, ce qui reste, c'est le coût. Parce qu'effectivement, en fonction de ce qu'on fait, il y a des fois, ça peut être moins cher. Mais aujourd'hui, on n'a pas le côté industriel, et c'est pour ça que je parlais de sourcing, qui nous permettrait d'optimiser les coûts. Et le fait de pouvoir travailler sur ces notions de hors-site au sein de la profession plus globalement, ça permettrait aux industriels de pouvoir avoir un peu une vision sur ce qui, justement, sur les programmes à venir, et de pouvoir justement travailler sur cette côté industrialisation et donc de diminuer les coûts. Parce que pour l'instant, ouais, aujourd'hui, les coûts, c'est les mêmes, voire plus chers. Hein,
ouais.
Mais
la
qualité, justement, tout ce qu'on a pu voir, nous, on a, en termes de qualité, on a beaucoup moins de problématiques que ce qu'on peut rencontrer quand on fait de la construction.
La construction, la qualité, c'est très important. Et puis il y a moins d'impact sur les riverains.
Il y a la décarbonation, ça coche toutes les
logistiques, oui. Mais pour arriver à un prix abordable,
il faut qu'on travaille sur l'industrialisation.
Oui, parce que
l'enjeu est venir.
Pour l'empreinte carbone, au lieu qu'il y ait plusieurs camions qui arrivent avec différents matériaux, là, il n'y en a qu'un seul qui se déplace et qui livre ça, c'est ça.
Oui.
Est-ce qu'on peut, lorsque je sais que vous faites de la surélévation, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un immeuble soit surélevé avec du bois ?
Oui. Jusqu'à maintenant, c'est souvent ce qu'on faisait parce que le bois, c'est plus léger. Maintenant, il y a justement beaucoup d'industriels ou même de start-up qui ont réfléchi à des nouvelles technologies qui permettent de surélever autrement que par le bois. Mais le bois, c'est un vrai intérêt dans le cadre de la surélévation.
Donc, on peut avoir un immeuble béton, un classique, et on fait une surélévation et vous essayez architecturellement, vous arrivez à lui donner une homogénéité.
Oui, tout à fait.
Alors justement, on va en parler, c'est l'heure du grand débat, on va parler sur élévation, parce que vous avez fait l'acquisition notamment d'une entreprise qui fait de la surélévation. C'est tout de suite maintenant le grand débat.
Le grand jury de la presse immobilière, le grand sujet.
Donc, merci Karine Julial-Kaïm d'être toujours avec nous, présidente du comité exécutif du groupe Polylogie. Et vous avez fait l'acquisition, on parle de logement social, vous avez fait une acquisition récemment, Upfactor, une entreprise, un cabinet, on va dire, expert en surélévation.
Oui, effectivement. Donc, en juillet, il y a la structure donc, qui s'appelle Upfactor qui nous a rejoint. Donc, c'est donc un cabinet qui est spécialisé dans la surélévation et surtout dans la cartographie du patrimoine, pour justement être capable de proposer tous les immeubles qui potentiellement pourraient être surélevés et ensuite accompagner dans toute la mise en œuvre de cette surélévation.
Donc en fait, c'est dénicher les dents creuses, comme on les appelle.
Dents creuses, oui. Enfin, c'est pas forcément des. Souvent, les dents creuses, c'est.
Au milieu.
Voilà, là, on est plutôt sur le haut. En fait, la réflexion, nous, elle est partie au niveau du groupe Polylogie depuis plusieurs années. On essaie de travailler sur l'existant. Pour justement pouvoir permettre de réhabiliter notre patrimoine et de construire en même temps. Donc on a commencé ça avec la rénovation urbaine sans la rue, donc on a commencé à financer ce type de travaux de construction neuve et de réhabilitation sur notre propre patrimoine en densifiant. Et ensuite, on a commencé à réfléchir sur d'autres typologies, puisque quand on travaillait justement sur ces notions de densification, on s'est rendu compte qu'il y a pas mal d'immeubles où on ne pouvait pas forcément densifier plus sur le sol, mais en tout cas, on pouvait réfléchir à des surélévations. Et donc, on avait demandé à Upfactor de nous faire la cartographie de notre patrimoine de logements sociaux. Pour regarder un peu ce qu'on pouvait faire. Et on s'est rendu compte que sur le Logireb, donc en Ile-de-France, sur nos 350 à peu près résidences qu'on avait fait cartographier, il y en avait quasiment un tiers qui pouvait être surélevé. Et dans ces surélévations, on avait plusieurs typologies en fait de patrimoine. Du patrimoine, on était seul propriétaire, et du patrimoine où on avait des copropriétés. Et d'accord. Donc avec des copropriétés, des copropriétaires privés classiques. Et c'est comme ça qu'on a commencé à réfléchir à ces notions de surélévation. Et quand on a travaillé sur ces sujets-là avec les copropriétaires, on s'est rendu compte qu'on avait un sujet de financement, on en parlait tout à l'heure. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, comment est-ce qu'on pourrait accompagner les copropriétaires pour financer leurs travaux de réhabilitation en proposant de la surélévation. Et c'est comme ça qu'on a créé un produit qui s'appelle LogiRénup, où dedans, en fait, on allie toutes les compétences du groupe, puisqu'on est bailleur social, aménageur, promoteur, administrateur de biens. Et donc, l'idée, c'est de dire, quand on a une copropriété, on accompagne les copropriétaires pour faire leurs travaux de rénovation en finançant via une surélévation. Et cette surélévation, en fait, elle est faite par une de notre structure qui est un promoteur.
Est-ce que c'est compliqué de surélever un immeuble au regard de ce que ça change dans la vue des voisins, par exemple?
Alors, en tout cas, celui qui est...
Mais celui qui est le dernier qui n'avait pas de vis-à-vis.
Voilà. Au dernier étage.
Alors, en fait, la surélévation, c'est très nouveau. Effectivement, en fonction des endroits, c'est un chemin qui est avec plein d'embûches. Ouais. Et c'est ça l'objectif justement de notre produit Leroy Jay Rhin Up, c'est que comme on a pas mal d'historique sur tous ces sujets-là, et notamment la surélévation, puisque nous on avait déjà fait des surélévations sur du patrimoine logement social, l'idée c'était de dire comment est-ce qu'on peut travailler justement pour travailler sur tous ces sujets-là. Il y a l'acceptation par les voisins, mais comme il y a déjà un immeuble existant, c'est pas le plus compliqué. Mais après, il y a tout le sujet des permis de construire, du fait qu'on est en copropriété, donc le droit n'est pas le même que celui qu'on peut avoir quand on est bailleur unique. Il y a toute la partie financement, la partie accompagnement des copropriétaires.
Puis la partie espace collectif. Parce que
tout ça, c'est très, très, très intéressant.
Même l'entrée, il faut la dimensionner par rapport au nombre d'habitants, même les réseaux, la largeur du trottoir.
Alors souvent, quand on est sur de la surélévation comme ça, on est sur un, voire deux étages. Donc, il n'y a pas tellement d'impact sur tout ce qui est les réseaux d'évacuation, sur les entrées, etc. Mmh. On a même plutôt des sujets d'amélioration de l'existant. Parce que dans les travaux qu'on fait à l'heure actuelle, on est souvent dans des résidences, il n'y aurait pas forcément d'ascenseur. Et en fait, le fait de faire cette surélévation et d'avoir un ou deux étages en plus,
ça optimise aussi les.
Et ben en fait, on construit des ascenseurs qui n'existaient pas jusqu'à maintenant. Enfin, il y a pas mal de choses en fait.
Et quand on parle de surélévation, en moyenne, c'est quoi? C'est un étage en plus? C'est combien d'appartements?
En général, on est un ou deux étages. Après, ça dépend des opérations dans les copropriétés sur lesquelles on a travaillé. Donc complètement privé, c'est-à-dire pas du tout de bailleurs sociaux. On peut faire un étage, entre 4, 6, 8 logements, ça dépend. Ah oui. On a des opérations sur lesquelles on travaille, nous, en surélévation, des opérations de logement social, où on fait un étage, c'est 20 logements. Donc, en fait, c'est très différent.
La mairie de Paris avait imaginé que c'était une très bonne alternative. Pour résoudre les problèmes des dents creuses, entre les immeubles. Et justement, est-ce qu'on a des chiffres là-dessus? Est-ce qu'à Paris, ça fonctionne, la surélévation? On n'a pas l'impression. Moi, je trouve que l'idée, elle est géniale, parce que ça permet de densifier, puis d'avoir une offre de logement. Et puis, pour les copropriétaires existants, c'est une franchise de leur charge, quelque part, en échange d'eux. Mais est-ce que ça fonctionne concrètement? Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus?
Alors, est-ce que ça fonctionne concrètement? Ça commence à venir. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est quelque chose qui est récent. Quand on regarde un peu les chiffres sur les bailleurs sociaux, il y aurait à peu près 10% du parc qu'on pourrait surélever.
Ah oui, quand même.
Oui. À Paris, il commence à y avoir pas mal d'opérations justement de surélévation qui sont faites. Et notamment, il y a des copropriétés, mais aussi des bailleurs sociaux. Nous, par exemple, à Paris, on a au moins 2-3 opérations qui sont en cours, dont une où les travaux ont déjà commencé et on en a une où justement il y en a où c'est des copropriétés privées classiques et il y en a où c'est des copropriétés où Logirep par exemple est copropriétaire, donc on a un peu de tout. C'est des opérations qui sont assez longues parce que justement comme on a en même temps cette notion de travaux, donc avec tout ce qui est permis de construire, etc., trouver les sous-traitants et puis le côté copropriété, donc passer dans les AG, etc., donc ça c'est assez long. Si on met à ça toutes les problématiques liées à MaPrimeRénov', puisqu'en fait, nous, l'idée derrière ça, c'est de pouvoir accompagner les copropriétaires privés pour être dans le financement des travaux via MaPrimeRénov', tout ça fait que le planning est quand même assez long. Mais justement, comme au fur et à mesure qu'on travaille sur tous ces sujets-là, on arrive justement à le planifier, ça permet au fur et à mesure d'être beaucoup plus réactif.
Et Sébastien qui voulait vous
parler. Non, c'était juste un peu plus global en fait. On n'a pas parlé encore de politique, mais c'est vrai que sur la politique du logement, on avait pu écouter Valérie Létard qui en avait beaucoup parlé. Je me souviens aussi de l'ancien Premier ministre Gabriel Attal. Moi, je me souviens de ce chiffre, ça m'avait marqué. Il avait sorti ce chiffre de 38 000 logements qui pourraient être conçus grâce à la surélévation. Est-ce que d'après vous, c'est une piste vraiment de réflexion encore à développer à l'échelle nationale pour relancer la machine?
38 000 à l'échelle nationale?
Mais c'était... Il y a très peu de chiffres.
À mon avis, c'est plus... Quand je parlais 10% du patrimoine...
Mais en tout cas, on parle de très peu au niveau national. Hein.
Bah, en fait...
Et juste pour vous dire, c'est lorsqu'on pose la question au ministère, à chaque fois, on n'a pas de chiffres précis sur l'élévation.
C'est difficile à identifier.
Aujourd'hui, ils n'ont pas ces chiffres-là. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez la théorie et la pratique. Si je prends le cas de l'OGIREP, nos 100 résidences, ça fait 200 000 mètres carrés, c'est 3 000 logements. Ça m'étonnerait qu'on arrive dans la vraie vie à faire 3 000 logements. Mais si je ramène mes 5,8 millions de bailleurs de logements sociaux, il y en a 10% des immeubles des bailleurs sociaux qui pourraient être surélevés. Donc si je prends 10%, ça pourrait faire des chiffres énormes. Donc je pense qu'aujourd'hui, comme c'est quelque chose d'assez nouveau, on n'a pas encore ce retour entre le théorique et la pratique. Et puis en plus, faut se lancer dans ce type d'opération. Quand on est bailleur social, encore c'est facile entre guillemets parce qu'on est seul et puis on maîtrise cette notion de travail, de travaux en milieu occupé. Mais quand on est dans des copropriétés, c'est quand même beaucoup plus compliqué quand on n'est pas, accompagné.
Quand on est dans un tissu urbain dense, vous parliez d'acceptabilité des riverains, les rues,
Un étage, quand l'immeuble est déjà existant, c'est quand même plus simple que quand vous avez un N+1 et que là, vous allez faire plusieurs étages au-dessus. C'est plus compliqué quand vous êtes en plus 5 et que vous faites un étage de plus, ça passe beaucoup. Enfin, il y a moins de problématiques par rapport à ça. Si on revient, on parlait de politique aux ZAN. Rien que la notion du ZAN fait qu'en termes de construction neuve, on va être obligé de réfléchir différemment. Alors tout à l'heure, je parlais de la fait de faire de la rénovation urbaine. Nous, on fait beaucoup de rénovation urbaine pour ces raisons-là. Mais la surélévation, ça fait partie des solutions pour pouvoir construire. Différemment.
Et faire plus.
Aujourd'hui, dans le hors-site, on parlait du fait que le coût, avec les expériences qu'on avait, on était sur des coûts qui étaient encore assez élevés. On a la même problématique sur la surélévation. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, la surélévation, on n'a pas d'historique, on n'a pas d'observatoire sur les coûts. On part d'un existant, ce qui veut dire qu'on n'a pas forcément le prix du foncier comme on peut l'avoir par ailleurs. Mais les coûts de surélévation, c'est des coûts qui aujourd'hui sont encore assez élevés et sur lesquels on travaille justement grâce au hors-site pour pouvoir amener ces coûts. Voilà.
Merci beaucoup Karine, Julien et Kaïm d'avoir accepté d'être notre grand témoin pour cette émission. L'émission touche à sa fin. Le grand jury de la presse immobilière avec Bien Ici. Merci à nos quatre journalistes, Sébastien Chabas, Jean-Marie Bordry, Isabelle Ray-Lefebvre,
Merci à vous, Valérie Valency.
Merci à notre indispensable Régis Sébille avec toutes ces analyses data, les analyses de Bien Ici. Merci à notre producteur Eric Cala et puis à la réalisation de l'émission. Jason Pignereau et Baptiste Plouchard. On vous souhaite une très bonne fin de journée et puis on vous retrouve le mois prochain dans le prochain numéro du Grand Jury de la presse immobilière. À très vite.
Le Grand Jury de la presse immobilière, une émission en partenariat avec Bien Ici, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.